un des piliers de l'approche par la de la régulation, membre du collectif des économistes atterrés, spécialiste des questions d'économie industrielle et d'économie internationale. Il s'est notamment intéressé à la question des brevets pharmaceutiques et plus largement à la question de l'économie des médicaments en lien avec les politiques publiques de santé. Et puis, sur les communs, eh bien, il a coordonné un ouvrage qui est aujourd'hui une des références en la matière, qui s'intitule « Le retour des communs » aux éditions « Les liens qui libèrent », publié en 2015. Donc, on va l'écouter tout de suite.
Ok. Bon, ben, merci beaucoup pour cette invitation à échanger des réflexions avec vous. Bien sûr, je me réjouis de voir ce programme se développer. Lorsqu'on a commencé à travailler sur les communs il y a quelques années, on n'était pas si nombreux. On était assez convaincus quand même que les troupes viendraient, hein, et que même si on partait peu nombreux, on n'arriverait pas tout seul au port. Voilà. Donc, bienvenue. Hein, et voilà, je vais essayer de vous transmettre une partie de ce qu'on a acquis pour les mettre en discussion avec vous. Alors, mon intervention, elle porte sur le thème de commun, bien commun. Je pense d'ailleurs qu'il y a tout un travail théorique, lexicologique, etc., historique aussi, à faire pour bien distinguer les deux notions, parce que ce n'est pas exactement la même chose, on va y venir, et ça a une série d'implications. Donc voilà, je veux un peu vous faire mener une discussion autour de commun, bien commun, en insistant sur la caractérisation, les implications et les enjeux. Suivant. Alors, l'objectif de la présentation, c'est de retracer les origines de ces deux concepts et de montrer à la fois leur différence et leur complémentarité et montrer en quoi ils sont porteurs d'une sorte, c'est même l'intérêt, de plusieurs sortes, de plusieurs modalités d'alternatives dans l'organisation des formes productives, dans l'organisation des formes sociales. On va sûrement en parler, enfin vous allez sûrement en parler longuement aujourd'hui, malheureusement je ne serai pas là, dans l'organisation de la ville et des territoires, parce que déclarer bien commun des ressources, des territoires, etc., implique des modes d'accès, des modes de gestion distincts de ceux qu'on a connus par le passé. Et on aura l'occasion d'en discuter. Des biens communs et des biens publics, ce n'est pas la même chose. Ça ne se gère pas de la même manière, ça ne donne pas lieu au même droit. Alors, on va suivant. D'abord, quelques mots sur pourquoi le retour des communs, et puis surtout le cœur de la présentation, c'est que je voudrais vous indiquer qu'il y a trois grands moments, en fait, de la constitution d'une réflexion sur les communs. Le premier moment, je vais en parler brièvement, mais il a son importance, bien sûr, c'est le moment fondateur. C'est Ostrom, les années 80, on verra, la conférence d'Annapolis, qui signe le grand retour des communs dans la réflexion en sciences sociales et dans la réflexion en politique aussi. Le deuxième grand moment, c'est les années 80. Alors là, c'est autour de l'immatériel. C'est la période de Stallman, de la Free Software Foundations et de la constitution des communs autour des logiciels libres, mais bien plus généralement autour des bases de données, autour des créations culturelles, etc., qui vont être mises en bien commun, au lieu d'être approprié privativement. Et puis enfin, je me réjouis d'ailleurs qu'on ait un collègue italien ici, je pense que le troisième grand moment de la réflexion sur les communs, il est apporté par l'école italienne, ce que j'ai vraiment envie d'appeler l'école italienne, en particulier autour de Rodotà et de Lucarelli, mais de bien d'autres, et qui, là encore, se focalise sur une question qui a été celle de l'eau à Naples. Mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Et alors, évidemment, cette troisième partie, l'eau à Naples, c'est peut-être celle qui est le plus en phase avec vos soucis d'architectes, d'urbanistes, etc. Mais peut-être, parce qu'il y a beaucoup à tirer des autres moments. de la constitution des communs. Alors, d'abord, Ostrom. Très vite, quand même, hein. Ostrom, c'est les années 80, c'est la conférence d'Annapolis. C'est quoi la conférence d'Annapolis? Tout ça n'est pas su, c'est très dommage. C'est quoi la conférence d'Annapolis? Eh bien, c'est qu'on découvre dans les années 80 qu'il y a une très forte érosion des terres en zone tropicale, que ceci résulte des politiques de la Banque mondiale de privatisation en masse des terres, et se réunit une grande conférence sur la question de savoir si cette érosion des sols, cette baisse de la productivité, ces difficultés qu'on rencontre en zone tropicale sont liées ou non à la destruction des communs. Et on réunit une grande conférence à Annapolis. On réunit une grande conférence à Annapolis et la réponse apportée par les chercheurs autour d'Ostrom est oui, l'une des causes des difficultés qu'on rencontre en zone tropicale est bien liée à cette privatisation en masse, à cette enclosure à laquelle on assiste au sud, après l'enclosure auquel on a assisté au nord. Alors, toute l'explication n'est pas là, mais une partie de l'explication est là. Et revient la réflexion sur les communs et les enclosures. Alors, je passe sur le débat historique là-dessus, mais revient sur c'est quoi les communs aujourd'hui. Et chez Ostrom, on peut tirer une définition des communs autour de trois éléments. Donc, un commun, c'est une ressource mise en commun, qui peut être de nature tangible ou intangible, donc, voilà, une forêt, un lac, un pâturage, etc., ou, on le verra un peu plus tard, une base de données, un logiciel, une création culturelle, une ressource. Deuxièmement, c'est des droits de propriété répartis entre différents acteurs ayant accès à cette ressource. Ce que Ostrom et Schlegel, une de ses collaboratrices, appellent un « bundle of rights » qui lie les différents partenaires. Alors j'insiste beaucoup sur ce point, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y a des visions différentes, hein, des communs aujourd'hui, et donc moi je ne suis pas de l'école qui dit que le commun c'est l'inappropriable, absolument pas. Hein. L'inappropriable n'est qu'une figure du commun, et les communs d'Ostrom, par exemple, c'est de la propriété partagée, c'est de la propriété en accès ouvert, j'y reviendrai. Et puis troisièmement, pour avoir un commun, il faut un mode de gouvernance, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une structure de gens qui garantissent les droits de propriété, qui garantissent les droits d'accès, qui garantissent les droits d'usage. Les communs, je vais décevoir un certain nombre d'entre vous, c'est pas un monde de bisounours, hein. Ça veut dire que les communs sont gérés, d'ailleurs parce qu'au départ il s'agit de ressources épuisables, de ressources non reproductibles, la terre, l'eau d'un lac, etc. Si ce n'est pas géré, c'est détruit. Et à ce moment-là, c'est Hardin qui a raison. Et c'est ça qui fait la différence entre l'accès ouvert à la Hardin, qui est susceptible d'une tragédie, et le commun qui est géré, et qui lui, non seulement n'est pas susceptible de tragédie, mais est un moyen efficace de protéger la qualité de la ressource, est bien plus efficace que l'appropriation privative, on y reviendra. Alors, voilà, ça c'est la structure des droits de propriété dans les différents, dans les différentes hypothèses montrées par Ostrom, et vous voyez qu'on est loin de l'inappropriable, hein, on est vraiment très loin. Donc ceux qui défendent le commun comme inappropriable, il faut absolument qu'ils assument qu'ils n'ont rien à voir avec Ostrom, qu'ils n'ont rien à voir avec l'histoire des enclosures, hein. Et qui sont en train d'inventer un concept de commun purement idéal. Hein. Bien. Voilà, il y a plusieurs types de droits. Les droits d'accès et de prélèvement, c'est sur la gauche. Hein. Les droits de management, les droits d'exclusion, les droits d'aliénation. Et suivant qu'on dispose de un ou plusieurs de ces droits, on est un simple authorized user, un usager autorisé, un claimant, un propriétaire, etc., je passe. L'intérêt, c'est simplement de montrer que c'est bien une distribution de droits de propriété, un faisceau de droits de propriété. Qu'est-ce qui est important chez Ostrom? Ce qui est important, c'est qu'on a une nouvelle conception des droits de propriété. On passe de droits de propriété privatifs et exclusifs a des droits de propriété inclusifs. Et ça, c'est la grande révolution qu'apporte le commun. C'est un concept de droit de propriété qui inclut et qui partage et non qui exclut et qui divise et qui limite à l'individu. Et donc, cette révolution des droits de propriété, engagée par les travaux d'Ostrom, nous n'en sommes qu'à son début. Nous n'en sommes qu'à son début. Et elle aura des conséquences historiques fondamentales. De ce point de vue, les communs ouvrent une nouvelle période historique, après celle de la propriété privative typique du capitalisme. Alors maintenant, je vais finir avec Ostrom, parce qu'il y a différents types de communs. L'archétype du commun chez Ostrom, c'est... L'archétype du commun chez Ostrom, c'est d'abord un commun foncier, même si, avec une de ses collaboratrices, S, elle va écrire des choses sur les communs de connaissances. Mais en vérité, 90% de la réflexion d'Ostrom, c'est sur les communs fonciers. Donc c'est un commun foncier, un pâturage, une pêcherie, etc. À son origine, on a des règles d'usage qui, le plus souvent, sont des règles émergentes, qui sont élaborées par les riverains et par les ayants droit. C'est un commun dont le management est community-based, c'est-à-dire entre les mains de la communauté. Enfin, c'est un commun de taille moyenne ou petite. Il y a, dans les communs d'Ostrom, quelques dizaines, quelques centaines de personnes. À distinguer donc radicalement hein, des grands communs de l'époque informationnelle, qui sont universels. Il y a des dizaines, des centaines de millions d'usagers hein, connectés à la même base de données. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le même type de commun. Et j'insiste sur ce point, il y a plusieurs types de communs, et bien sûr, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Cette variété des communs, et j'insiste encore une fois, des communs qui ne se ramènent pas à de l'inappropriable, mais qui contiennent des formes partagées entre différentes communautés. Deuxième grand moment des communs, c'est Stallman, hein, ce gourou auquel nous devons tous le plus grand respect, en tout cas tous ceux qui s'intéressent aux communs, et ce qu'on appelle le mouvement FLOSS, Free Libre Open Source Software, mais qui va bien au-delà. Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est aussi les années 80, c'est ce que un auteur américain a appelé la réponse au deuxième mouvement des enclosures. Le premier mouvement des enclosures a été l'enclosure des terres. Le second mouvement des enclosures, c'est l'enclosure des esprits. Et quelqu'un a eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure que j'ai beaucoup travaillé sur les droits de propriété intellectuelle. Et en effet, des années 70 à nos jours, on a assisté à une extension formidable, folle, insensée, des droits de propriété intellectuelle de nature privative et exclusive. Alors, ils se sont répandus où ? Ils se sont répandus dans le domaine du vivant, avec la possibilité de breveter les gènes, une folie furieuse, de la connaissance scientifique sur les structures élémentaires de la vie, qui est à l'origine de découvertes fondamentales pour les traitements ont été privatisées, hein, la Commission européenne, d'ailleurs, participant à ce jeu avec un cynisme et une hypocrisie sans égale, article 1 du traité sur les biotechnologies, article 5 du traité sur les biotechnologies, tout ce qui relève du vivant est non brevetable. Article 5 bis, ce qui relève du vivant mais qui a été obtenu par des moyens technologiques est brevetable. Ah bon, ah, on est très avancé là, on est très avancé. Voilà. Bon, voilà, je ne suis pas du tout par constitution anti-européen, hein, comme c'est le mode aujourd'hui, mais ça ne m'empêche vraiment pas, et au contraire, ça implique d'exercer les critiques les plus sévères lorsqu'elles s'appliquent. Et cette attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la brevetabilité du vivant est indécente. Bien. Pareil, on a breveté les algorithmes mathématiques qui servent de base aux logiciels. Pas les logiciels, les algorithmes mathématiques sur lesquels ils sont basés. Donc là encore, une folie furieuse, puisqu'on brevette des connaissances et des savoir-faire extrêmement amont qui sont la base de la production du reste des connaissances. On est en plein anti les recommandations d'Arrow, prix Nobel, néoclassique de son état, mais qui avait au moins pour lui l'intelligence et le bon sens, et qui avait revendiqué surtout de ne jamais breveter tout ce qui était amont, puisqu'on se privait des développements aval, c'est-à-dire de l'invention technique. Et enfin, on a aussi, c'est une période d'extension de la propriété intellectuelle à travers le monde, sur les standards occidentaux. C'est pendant cette période formidable qu'on a breveté les médicaments, en particulier les médicaments sur le sida, au moment où la pandémie du sida se développer à travers le monde. Juste pour que vous sachiez ça, au début des années 2000, le traitement des antirétroviraux brevetés, donc, était à 1 400 $ par personne an. Quand vous savez que le revenu moyen en Afrique où l'épidémie frappait est de l'ordre de 2 ou 3 000 euros an, ça voulait dire qu'il faut qu'ils meurent tous. Hein. C'est ça qu'on a inventé à travers les TRIPS. Bon, on a eu vraiment des choses folles. Et fort heureusement, donc, se sont levés un certain nombre de gens, dont Stallman, qui en a la figure la plus avancée, en disant, eh ben non, on brevettera pas tout ça. Et tout ça restera dans le domaine public. Et donc, ils ont, d'abord dans le cas des logiciels, puis ensuite dans le cas des créations culturelles, déclarer que ceci ne serait pas breveté, que ceci serait mis dans le domaine public. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les firmes ont attrapé ces découvertes mises dans le domaine public, les ont à peine modifiées et les ont brevetées. Et donc, il a fallu inventer un moyen de faire du domaine public à partir du droit privé. Point suivant. Et ça a été cette chose absolument extraordinaire, moi qui ne cesse de m'émerveiller, hein, qui est que, à travers des contrats de droit privé, on a créé du domaine public. La licence GPL, GNU, dit « moi, détenteur du copyright ». Vous voyez qu'on n'est pas dans l'inappropriable. C'est approprié, le GPL, GNU. Hein. « Moi, détenteur du GPL, GNU, détenteur, je déclare que ce bien est accessible, reproductible, diffusable, copiable, modifiable, etc. » Et donc, on a fabriqué du domaine public protégé, hein, à travers du droit privé. Bien. Et au-delà, ont été créés, grâce à Lessing, qui a travaillé donc avec Stallman, les licences Creative Commons, qui ont appliqué le principe du Bundle of Rights à la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que, à travers les Creative Commons, on a déclaré, eh bien, le droit d'accès, il est pour tout le monde, le droit de reproduction, il est pour tout le monde, mais l'usage commercial, il n'est pas pour tout le monde, il est pour moi, etc. Et donc, on peut combiner, je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut combiner différents types de droits attachés à la propriété intellectuelle en disant, celui-là, je le garde, celui-là, je ne le donne pas, celui-là, je le donne sous certaines conditions, et donc, on a réappliqué au logiciel et aux créations intellectuelles ce que Ostrom avait mis en évidence dans le cas des communs fonciers. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux mouvements ne se connaissaient pas vraiment, et ils ont chacun réinventé la même chose de leur côté. Heureusement, à partir des années 90, ils ont commencé à converger, à se parler et à s'apercevoir qu'ils traitaient de la même chose. Bon, alors, je passe pour dire que, avec la Free Software Foundation, avec plus généralement les Creative Commons, etc., et puis Internet, on a eu des centaines de milliers, de millions de communautés qui se sont créées autour de biens partagés, autour de ressources partagées, gouvernées par ceux qui sont à l'origine de ces bases de données partagées. Et donc, on a eu une multiplication par, alors encore mieux que les pains de la Bible, je ne prends pas cette analogie pour rien, du nombre de communs à travers le monde et dans la société, une multiplication vertigineuse. Et nous n'en sommes qu'au début. Et nous n'en sommes qu'au début, parce que ce n'est pas demain que le numérique va s'arrêter, comme vous vous en doutez. Bon, là, je passe. Si, je vais quand même vous dire ça. Quelle est la différence entre un bien commun foncier et un commun foncier et un commun intellectuel? Eh bien, le commun foncier, la gouvernance, elle est orientée vers la conservation, parce qu'il faut protéger le banc de poissons, le pâturage, les animaux de la forêt, etc., de la prédation. Donc, voilà. Alors que le commun intellectuel, il est orienté vers l'abondance, vers l'enrichissement. La gouvernance a pour but de faire en sorte que vos apports à Wikipédia viennent enrichir Wikipédia, pas protéger ce qui existe. Mais il faut quand même de la gouvernance, parce qu'il faut vérifier qu'on ne va pas raconter des âneries et qu'on va bien enrichir la base de données et qu'on ne va pas la gâcher. Voilà. Donc on a quand même deux types de communs assez différents. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, enfin je le dis comme ça, mais au passage, je le dis, c'est pour la raison pour laquelle le commun, comme on dit, moi, ça me laisse un peu de glace. Parce que je pense qu'il y a des communs. Le commun, je voudrais qu'on me le montre. Bon. Et surtout, me montrer que c'est le même. Ce n'est pas du tout le même. Donc, il vaut mieux parler des communs. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le troisième moment, et j'en aurai fini, qui est le troisième moment, donc, l'école italienne, en particulier autour de cette magnifique figure qu'est Stefano Rodotà. Comme vous voyez, à chaque fois, on a... C'est ça, quoi, hein. À chaque fois, on a une espèce de porte-drapeau, mais ce porte-drapeau n'existe que parce que il y a des gens qui ont tissé le fil, qui ont fabriqué la rampe et qui ont fait la masse de gens qui sont derrière le drapeau. Bien. Alors, ici, là aussi, ça commence sur une enclosure. Ça commence sur une enclosure. L'enclosure, c'est comment il s'appelle notre président italien préféré, Berlusconi, voilà, qui dans un projet de loi rend possible, voire incite, parce que le projet de loi est très tordu, à la privatisation des biens publics, eau, gaz, électricité, etc., lorsque les municipalités sont en difficulté pour assurer l'équilibre, et prévoit même que on peut gagner de l'argent avec ça, en violation complète avec les lois précédentes sur ce type de bien public. Et donc, à ce moment-là, naît un grand mouvement de résistance à la privatisation de l'eau. Ce qui est extraordinaire, signe des temps, c'est que ce mouvement se développe non pas sur « défendons l'eau bien public », mais se développe sous le mot d'ordre « défendons l'eau bien commun ». Et vous allez voir que ça va avoir une conséquence. Pendant le même... Et probablement, la mobilisation n'aurait pas été la même. Hein. Je pense que nos amis italiens, nous le confirmeront. Pendant le même temps, est mis en place... Alors, ce n'est pas lié à ça, mais les deux choses vont converger au Parlement. Une commission pour... c'est une commission pour réfléchir sur les aspects juridiques du statut des biens, mais Stefano Rodotà a eu le génie de transformer une partie du travail de cette commission pour définir un statut juridique de la notion de bien commun à côté de la notion de bien privé et de bien public. Alors, c'est en cours, le projet de loi existe, il n'a pas évidemment encore été voté, il traîne dans les couloirs du Parlement, on peut espérer qu'à un moment ou à un autre, il sera discuté et peut-être même voté. Le cœur du projet de Rodotà, c'est de dire quoi? C'est de dire il est possible de définir des biens communs à côté des biens publics et des biens privés. Et c'est quoi un bien commun? Alors, la définition proposée, c'est tous les biens qui indépendamment du titre de propriété. C'est très important. Qu'il soit public ou privé. D'accord ? Ce relais se révèle fonctionnel par leur nature et leur finalité intrinsèque à la poursuite et la satisfaction d'intérêts de la collectivité ou de droits fondamentaux de la personne impliquant les générations futures. Autrement dit, tout bien qui touche des intérêts collectifs et impliquant de surcroît les générations futures, donc l'eau, l'air, le climat, etc., mais aussi, je vais y revenir, des places publiques, des domaines de convivialité, de socialité, doivent avoir le statut de bien commun. Dès lors, je ne rentre pas dans les détails, s'ils ont un statut de bien commun, ils ne pourront plus être traités ni comme des biens privés, ni comme des biens publics. Ni comme des biens privés, ça veut dire le détenteur propriétaire du bien commun, un palais du 16e siècle sur une place publique, il peut être privé, ou un musée qui peut être public, ne pourront plus être aliénés, ils devront être gérés suivant un certain nombre de principes qui garantit l'accès des uns et des autres. Je ne rentre pas dans les détails. La concession, comme la concession de service public, est possible, mais elle doit être justifiée, temporaire, limitée dans le temps, et en tout cas, elle doit se faire en garantissant l'accès des plus pauvres. Je ne rentre pas dans les détails, mais juste pour vous donner une idée, à Naples, on a remunicipalisé l'eau à travers une entité qui s'appelle ABC, et là aussi, quand même, c'est assez stupéfiant. ABC, ça veut dire Acqua Bene Comune, au bien commun. L'entreprise s'appelle ABC. On est vraiment dans une autre planète. Bon. Et évidemment, il y a toutes sortes de problèmes. Je ne vais pas vous dire qu'on est rentré au paradis. Mais quand même, il y a des choses très nouvelles. Par exemple, les premiers mètres cubes sont gratuits. Parce que l'eau bien commun, l'accès des plus pauvres doit être garanti. Bon. Ensuite, on a un prix de base. Et puis, si vous consommez de l'eau pour votre piscine, vous avez le droit, mais c'est plus cher. Et donc, on a, vous voyez bien, des impacts énormes sur la péréquation tarifaire pour permettre l'accès commun tout en garantissant la viabilité économique des biens communs. Bien commun, ce n'est pas synonyme de gratuité, c'est synonyme d'accès partagé et d'accès protégé pour les plus pauvres. C'est ça, bien commun. C'est pas gratuité, c'est pas pareil. Bon. Voilà. Alors, peuvent rentrer dans le bien commun quoi ? Je donne la liste suggérée par Rodota. Les fleuves, les torrents et leurs sources, les lacs, les milieux, on passe, les milieux naturels, les milieux aquatiques, l'air, l'atmosphère, les parcs, les forêts, les bois, les zones de haute montagne et, ça vous intéresse davantage, les places, les monuments, les musées, les lieux de sociabilité, etc. Alors, il y a une série de questions qui sont en suspens. Quelle forme d'accès? Comment garantir le partage des droits de propriété? Qui gère la gouvernance? Tout n'est pas réglé, mais on rentre dans un autre monde. C'est ça qui est important. Voilà, j'ai fini. Quelques messages centraux. Alors, les communs constituent une alternance aux droits de propriété exclusifs des biens gérés comme tels. Il nous faut rentrer dans le monde des biens de la propriété inclusive et de la propriété partagée. Ils ne peuvent exister que sous des conditions institutionnelles appropriées. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il me paraît très important de dire la chose suivante. Nous entrons dans un monde où il n'y a plus de limite pour les biens communs. Les seuls biens communs, la seule limite, c'est celle que la collectivité voudra bien donner aux biens. Nous pouvons déclarer bien commun comme on a déclaré les droits de l'homme. Nous pouvons faire une déclaration sur les biens communs dans la cité, dans la ville, dans la société, etc. Et construire les institutions autour de cette nouvelle déclaration. Moi, je rêve de ça. Je ne suis pas sûr de connaître ce jour-là, mais je pense qu'il viendra, où il y aura une déclaration des biens communs de la même portée que la Déclaration des droits de l'homme. Et il y aura autour une série d'institutions construites, comme il y a des institutions construites pour garantir les droits de l'homme. Sans la justice, sans etc., il n'y aurait pas de droits de l'homme. D'ailleurs, on voit bien les pays dans lesquels les institutions autour des droits de l'homme ne sont pas construites, ça s'appelle des dictatures. Bien. Voilà, j'ai fini. Les communs, c'est à la fois un moyen économique de garantir la soutenabilité et la protection des ressources, et c'est à la fois un lieu de démocratie renouvelée, parce que les communs impliquent de la délibération. Je ne suis pas un démagogue, hein. Je ne dis pas que c'est la fin de la démocratie délégative. Elle va continuer d'exister parce que dans des sociétés de grand nombre, on ne peut pas faire autrement. Mais le commun introduit en dessous de la démocratie délibérative des citoyens autour des biens communs qu'ils ont déclarés tels. Et bien, je crois que l'ensemble de ces choses font que ça valait la peine de s'y intéresser. Voilà, je vous remercie.